Vous écoutez France Culture. Pendant plus de deux mois, j'ai eu la certitude que l'Esprit-Saint, à savoir Dieu, me pilotait. Et en un sens, c'est la vérité. Tout est une question de sémantique. Philippe Cadic. En mars et avril 1974, l'écrivain américain Philip K. Dick est l'objet d'expériences visionnaires intenses, une véritable crue de science et de sensations, de vision et de perception, moment mystique qu'il tentera jusqu'à sa mort de topographier, d'interpréter en quête d'un sens qui serait celui de toute sa vie. De cet inlassable questionnement a résulté une énorme somme de feuillets manuscrits constituant le legs ultime de l'écrivain, édité aux États-Unis sous le titre de l'Exégèse. Elle est enfin traduite en français grâce à notre invité et éminente spécialiste de Philip K. Dick, Hélène Collomb, également dans cette émission, chronique bande dessinée, et hommage au libraire Jacques Noël. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une émission que je rêvais de faire depuis bien longtemps et que ce soir, eh bien, je suis heureux de vous faire partager une émission consacrée pour la seconde fois dans l'histoire de Mauvais Genre à Philip K. Dick. Vous vous souvenez de la précédente émission qu'on avait faite avec Ariel Kirou notamment, et là c'est une émission que l'on fait avec Hélène Collomb. Bonsoir.
Enchantée, bonsoir.
Hélène Collomb, je suis ravi d'accueillir à ce micro parce qu'elle est sûrement la personne en France qui connaît le mieux Philip K. Dick. Vous aviez...
Objection, votre honneur.
Objection, alors, ben, merci pour l'honneur. Mais oh, quand même, avec Jacques Chambon, vous en avez traduit la totalité des nouvelles. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur lui. Vous avez animé un site sur une page Facebook consacrée à Philip K. Dick. Donc c'est quand même la personnalité autour de laquelle tout votre travail d'écriture et de traduction tourne, non ?
Il a occupé une grande partie de ma vie littéraire, voilà, oui, voilà. En effet.
Et aujourd'hui, il continue, puisque cette exégèse en témoigne. Vous êtes toujours... à travailler sur Philip K. Dick.
En immersion. Quasi totale, oui, voilà. Puisqu'il ne s'agit quand même que du premier tome.
Voilà,
de l'exégèse,
on sera très impatients du deuxième tome. On refera d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, une deuxième émission pour le second tome de cette exégèse. Bien évidemment, chaque fois que l'on parle de Philip K. Dick, se matérialise spontanément à ce micro. Paco-me Thielement, bonsoir Paco.
Back from the dead.
Voilà, back from the dead. Il est là, il est là. Bonsoir Paco. Pareil,
bonsoir,
c'est quand même une grande date, cette parution. Hein, j'espère que le livre va se vendre énormément, oui. Et qu'on va en parler, parce que c'est quand même pas rien.
C'est un des livres les plus importants que j'ai pu lire de ma vie. Voilà. Et Hélène, je dois quand même vous dire avant de commencer cette émission que vous êtes l'autorité que je reconnais en matière dickienne.
Merci Paco.
Voilà, je parle sous votre contrôle.
Lui, il n'a pas droit à une objection. On est tout à fait d'accord. Présent également Antoine Guillot. Antoine Guillot qui se rapproche du micro.
Je me rapproche de Paco-me Thielement pour parler. Bonsoir François.
Voilà, bonsoir Antoine. Bah, avec vous, on va faire bande dessinée, avec notamment des pulps ou des comics à la française qui paraissent chez Rue de Sèvres. De quoi s'agit-il?
Et on va parler boucle temporelle, nécrophages et nazis dans l'espace.
Bah, tout ce qu'on aime à Mauvais Genre. Enfin, plutôt les nécrophages que les nazis, mais on va parler des boucles temporelles. Et avec Dick, pourquoi pas, c'est une bonne...
Alors, un petit nazi de temps en temps.
Idée, de temps en temps, vraiment de temps en temps.
Dans l'espace.
Et dans l'espace. Désorbité.
D'accord.
Et le maître Bire est là également. Bonsoir maître Bire, vous êtes en direct.
Bonsoir.
Ce qui fait que je peux vous saluer et vous accueillir à cette antenne de manière plus spontanée, comme ça. Avec vous, on va rendre hommage à Jacques Noël.
Oui, ben c'est le libraire de la rue Gillecoeur, un endroit qui d'ailleurs peut être qualifié de dickien aussi.
Oui, parce que c'est une porte sur une autre dimension.
Alors, voilà. C'est vrai que le regard moderne, petite librairie par l'espace, immense librairie par l'apport qu'elle procurait et par le symbole qu'elle représentait, était une porte ouverte sur tous les espaces de l'imaginaire.
Voilà, tout à fait, oui.
Eh bien, on va parler donc et rendre hommage à Jacques Noël, que j'ai sollicité plusieurs fois pour parler au micro de Mauvais Genre.
Ah, il ne venait pas.
Et il refusait.
C'était un homme très, très discret, mais voilà. On en reparlera
en
fin d'émission.
À la fin de cette émission, soyez donc les bienvenus. Et l'heure est venue maintenant, non pas de disparaître dans une faille temporelle, mais d'ouvrir, ce qui est un peu la même chose, l'encyclopédie pratique des Mauvais Genres. Et à quelle lettre ce soir, ma chère?
C'est la lettre H, comme H. Arthur H, pour ses lectures musicales tirées de son album l'album L'or d'Eros, poésie sexuelle du XXe siècle, ou avec le compositeur Nicolas Repas qu'il met en voix et en musique des textes d'Apollinaire, de Bataille, de Breton ou de Joyce, pour ne citer que.
Trempe ton cul dans l'orage, entouré d'éclairs, c'est la foudre qui te baise. Ernest Bernardin. Et je teste le micro. Tout est musique. John Cage, il a dit tout est musique, tout ce qu'on écoute, si on pense que c'est de la musique, tous les bruits, tous les sons de la vie, c'est de la musique. Donc la poésie sexuelle, c'est je fais mon John Cage, tout est sexuel. Voilà, tout est, c'est vrai que moi, pour moi, la musique a vraiment une forte qualité sexuelle dans le sens de trouble, de séduction, de transe, poésie sexuelle. Et je trouve que la poésie qui n'est pas un peu sexuelle peut être ennuyante. Il ne faut pas qu'elle parle de cul, mais il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre du sexe, c'est-à-dire de l'ordre de la création et du désir en elle. Mademoiselle, mon cœur, mise nue dans la dentelle, à la bouche parfumée, le pipi coule de ses jambes. L'odeur maquillée de la fente est laissée au vent du ciel. Un nuage dans la tête se réfléchit à l'envers. Une merveilleuse étoile tombe, cœur criant comme la bouche. Le cœur manque, un lys est brûlant, le soleil ouvre la gorge. Je mets mon vie contre ta joue, le bout frôle ton oreille, lèche mes bourses lentement. Ta langue est douce comme l'eau, ta langue est crue comme une bouchère, elle est rouge comme un gigot. Sa pointe est un coucou criant. Mon vie sanglote de salive. Moi, je suis pas du tout adepte de la pornographie. Je trouve ça assez ennuyeux. Enfin, la pornographie, c'est pratique, quoi. C'est à des fins masturbatoires. Pour s'exciter sur elle-même et se masturber, je pense que c'est rare. On peut aussi regarder de la pornographie avec son conjoint, sa conjointe, et se masturber l'un l'autre, faire l'amour, enfin... Mais à la base, je trouve ça quand même très ennuyeux. Et l'érotisme aussi. Mais ce que je constate dans ces poèmes, c'est que c'est une façon de parler de l'intimité qui est absolument magnifique et très efficace. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intime que la chair, la peau, Ton derrière est ma déesse. Il s'ouvre comme ta bouche. Je l'adore comme le ciel. Je le vénère comme un feu. Je bois dans ta déchirure, j'étale tes jambes nues, je les ouvre comme un livre où je lis ce qui me tue. Pour moi, tout est de la musique. Et justement, ça m'intéresse de faire de la musique avec d'autres choses que de la musique, en fait. Donc, par exemple, raconter une histoire ou parler, ça sera toujours de la musique, parce que c'est toujours rythmique, c'est toujours mélodique. En plus, il y a la magnifique musique de Nicolas Repac sur laquelle je me pose. Donc parfois je chantonne, je vais vers le chant, après je redescends, mais je pense les poèmes en termes de rythme aussi, quand je suis avec Nicolas en tout cas. Et donc ça reste de la musique. Sur Prendre Corps, à un moment je chante, ou même dans Apollinaire aussi, à un moment c'est tellement trans, tellement répétitif, qu'à un moment ma voix elle est obligée de décoller, mais après je la fais réatterrir tout de suite. Mais ça c'est purement 100% de la musique. Ces poèmes sexuels, c'est des poèmes de l'intimité, donc je les dis d'une manière intime. Enfin, parfois, je les dis, je suis un peu plus rentre dedans, je suis timbré, tout ça. Et puis parfois, je les murmure, et c'est vraiment de l'ordre de la confession, quoi.
Je me suis dévêtu pour monter un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mise à cheval sur une fourche écartée en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sous ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause de fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors, je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau.
L'or des roses, poésie sexuelle du XXe siècle d'Arthur H. et de Nicolas Repas, qui est sorti chez Naïve. Et pour retrouver les deux complices sur scène, rendez-vous ce lundi à Paris au Théâtre du Rond-Point, puis les 15 et 16 octobre à Toulon au Théâtre Liberté et le 18 à Nantes, salle Paul Fort.
Au Théâtre Libertin à Toulon. Merci Liberté. Ma chère Céline pour cette entrée. Arthur H. de notre encyclopédie pratique. Combien d'entrées à l'encyclopédie? Ça doit commencer.
Je sais pas, ça doit commencer.
Les chroniques de Christophe Beer.
200 quoi, peut-être, je ne sais pas, 200, Christophe, 200, combien vous en êtes-vous?
Moi, c'est 250 chroniques, ah oui, 260. Alors moi. Oui.
Voilà, très bien, mais... Oui. C'est Hélène Colomb, vous êtes sensible à la poésie érotique, à cet univers de...
Absolument pas.
Non, non, ah, non, vous avez déjà traduit de la poésie, d'abord, grande traductrice de science-fiction.
Non, la poésie, je pense qu'il faut être poète, soi-même, ouais. Pour traduire de la poésie, je ne m'y hasarderai pas.
Là, je ne demande pas à Christophe Beer de réagir au propos de...
Sur la pornographie.
Ben, je ne sais pas.
C'est un pornophobe de plus qui préfère
l'érotisme.
Je ne crois
pas qu'il faille résumer ainsi Arthur H. C'était juste une petite remarque sur la pornographie.
Oui,
comme une autre.
Voilà, c'est un autre débat. Et c'est une autre émission maintenant.
Comité de vigilance, Christophe Beer a parlé.
De rejoindre, eh bien, non pas l'univers de la pornographie. Oh, quoique, pornographie sacrée... En tout cas, l'univers de Philippe Kadic à la faveur de l'édition française, premier tome paru, collection Les Nouveaux Millénaires, de l'exégèse de Philippe Kadic. Voilà, les vrais mélomanes auront reconnu, choisi par Laurent Polleret pour notre playlist de ce soir, Saldana Crystal Breath Autopoiesis, bien sûr, de Jonathan Huliel. Donc, cette émission est largement ce soir consacrée à Philippe Kadic qui a son exégèse. Alors, combien d'années de travail, ça représente quand même d'efforts de travail, de traduction, Hélène Colomb, pour que l'auditeur puisse quand même, s'il n'est pas tombé dans une librairie ou sur Internet, avec les nombreuses réactions que le livre a suscité, parce que là, on a déjà 800 pages à peu près, 745, ça fait un ensemble de 1500 pages, texte d'une nature très particulière, pour dans votre longue carrière de traductrice, je pense que c'est une étape et même une sorte de moments extrêmement décisifs.
Oui, c'est même une exception. C'est une parenthèse même dans une carrière de traducteur que de s'attaquer à un morceau pareil. Je pense qu'on ne peut pas le faire d'une seule traite. C'est un texte qui est trop dense et trop personnel et trop hors norme pour qu'on s'y plonge de manière continue. Donc j'y travaille depuis environ 4 ans, mais avec des parenthèses, avec des pauses.
Alors cette exégèse, on peut d'abord la décrire à peu près dans sa totalité, puisque là, c'est donc une traduction d'une anthologie, 8000 feuillets,
8000 feuillets manuscrits pour la plupart.
Ça, c'est le corpus total, voilà, sélection qui a été opérée par les anthologistes américains.
Donc, écrit par Philippe K. Dick à partir de 1974. Il faut déjà reconstituer le film des événements. Hélène Colomb, en 1974, où en est, on peut dire, la personnalité et l'œuvre de Philippe K. Dick, et en quoi consiste l'événement qui va être le déclencheur de la rédaction de l'exégèse. Alors,
dites-nous. En 1974, il faut déjà dire que Philippe K. Dick traverse une période très difficile dans sa vie, qu'il est très dépressif, très malheureux, qu'il a eu toute une série de revers de fortune, et qu'il lui arrive quelque chose, un événement mystérieux qu'il essaiera de pour lequel il essaiera de formuler toutes sortes d'hypothèses jusqu'à la fin de ses jours, survenu en 1982. On peut porter des regards très différents selon ses propres inclinations sur ce qui lui est arrivé. Lui-même ayant pour obsession dans la vie de chercher le divin derrière le céleste derrière le terrestre. Mmh. Penchera plutôt pour une hypothèse de nature mystique, mais je pense que on peut porter des, on peut
formuler d'autres analyses possibles.
Oui.
Alors d'autant que la vie de Philippe K. Dick, on peut connaître au travers de biographies comme celle de Laurence Sutton, par exemple, ou d'Emmanuel Carrère, a été émaillée comme ça d'instants de révélation. Jeune encore, il a la vision dans le ciel sous forme d'une gigantesque masque de fer de ce qui pourrait être le dieu du mal ou le génie du mal, le mauvais démiurge. Et c'est l'homme des instants, c'est l'homme de la révélation attendue, de la vérité manifestée qui était et attendue. Et on peut dire qu'en 1974, cet événement est totalement décisif et d'une certaine façon n'a rien d'étonnant, pas continuellement.
Bah en fait, ce qui lui arrive ressemble à ce qui peut arriver à ses personnages dans ses romans. C'est-à-dire qu'à un moment, la réalité excède toutes ses hypothèses. Mais
alors qu'est-ce qui s'est passé, parce que
très bien. Alors il se trouve que
quelque chose a eu lieu.
Il a juste eu mal aux dents, quoi.
Il a eu mal aux dents. Jusqu'à présent, ça va.
On lui a enlevé une dent de sagesse. Et en fait, il a commandé un antalgique buccal. La jeune fille qui est venue lui importer l'antalgique buccal portait un petit pendentif de poisson doré. À ce moment-là, un rayon spécial est passé sur ce pendentif, a ébloui Philippe K. Dick. Il a demandé que signifie ce poisson doré. Et elle dit c'est le symbole que portaient les premiers chrétiens. La jeune fille est partie, et à partir de ce moment-là, pendant, je crois, une durée de 2 mois, il a été sujet à des visions, des clairaudiences, des auditions. La radio
fonctionnait même fermée.
Donc, il voyait un rayon rose. Et surtout, une voix s'est installée dans sa tête qui a commencé à lui expliquer que ce qu'il craignait depuis ses rêves d'enfance, à savoir, dans ses rêves d'enfance, il cherchait un magazine outstanding avec un récit qui s'appelait « L'Empire n'a jamais pris fin », bien, l'Empire n'a jamais pris fin, cette phrase qu'il voyait dans ses rêves, en fait, correspond à une réalité, c'est-à-dire que l'Empire romain n'a jamais pris fin, c'est-à-dire que...
Symbole de tout ce qu'il exècre.
Tout ce qu'il exècre, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui pourrait être l'histoire de l'humanité est une illusion produite comme à l'intérieur d'une bulle, une prison, une prison, et on n'a pas bougé depuis 60 ou 70 après Jésus-Christ, grosso modo. Tout ce qui a suivi est une illusion produite par le mauvais démiurge. En fait, la personne qui lui dit ça est un homme que par moment il appelle Thomas. Par moment, il l'appelle Élie. Par moment, il l'appelle Zebda, si je ne dis pas de bêtises.
Zebra, pardon.
Zebda. Désolé. Et ça, en fait, ça lui amène à relire l'ensemble, la totalité de ses romans sous le prisme de cette révélation. C'est-à-dire que de toute façon, tous ses romans le racontaient avant même qu'il ne l'ait vécu.
Alors, Hélène Colomb, donc effectivement, la brusquerie d'une révélation, certains parleraient de conversion, mais là on ne se convertit à rien, puisque d'une certaine façon toute la vie de Dick annonçait d'une certaine manière cet événement. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt une sorte de confirmation et d'apocalypse intime plutôt que de rupture ?
C'est certainement pas une rupture, parce que c'est quelqu'un qui cherchait depuis toujours le sens, un sens caché aux choses, et qui a certainement trouvé une manière de... une voie à explorer. De ce qui jusque-là restait assez assez vague, mais qu'il explorait dans sa littérature. Et là, il s'est mis à l'explorer dans cet ensemble d'écrits nocturnes et solitaires qui est regroupé sous le nom d'exégèse, nom qu'il avait lui-même donné à ce corpus. Il a à la fois trouvé un exutoire et continué à chercher.
Alors, exégèse est un terme que l'on emploie d'habitude pour l'étude et l'analyse des textes sacrés. Là, je ne pense pas qu'il y ait une autodivinisation de la part de Philippe Cadic, mais simplement que ce moment a été une ouverture, une sorte de faille, de porte, de déchirure qui lui a permis d'entrer en contact. Alors là, du coup, avec la vérité des choses, est-ce que brusquement, il a eu le sentiment que le voile des apparences se déchirait et que cette espèce de réel, caché, se manifestait enfin ?
Je ne pense pas qu'il ait vraiment vu ce qui se cachait derrière le voile des apparences qui s'est déchiré à ce moment-là. Mais en tout cas, il a vraiment entrepris d'interpréter surtout ce qui... Il a reçu une masse d'informations. Voilà ce qui s'est passé en fait pendant ces deux mois-là. Il a reçu des informations en continu, sous toutes leurs formes, comme tu disais Paco, de manière visible, audible. Il a vu des tableaux, il a vu des couleurs, il a vu d'immenses pages couvertes d'écritures qui lui étaient présentées. On ne sait pas par qui. Il a multiplié les hypothèses là-dessus aussi. Et il a cherché à comprendre ce qu'on essayait de lui montrer par toutes ces informations. Il a aussi essayé de savoir quelle était la source de ces informations. Mais il n'a jamais vraiment conclu. Il lui arrive régulièrement, au cours de ses explorations nocturnes, de dire « ça y est, j'ai trouvé. Je sais. Ça y est. C'est... Zibra, ou c'est Dieu, ou c'est Jésus, ou c'est Thomas, ou c'est... » Et puis, la page suivante, au chapitre suivant, il échafaude une autre hypothèse, complètement différente, ou dans le droit fil de la précédente, mais il ne s'arrête jamais de chercher.
Il ne s'arrête jamais de chercher, donc multitude de perceptions, multitude d'informations visuelles, donc sonores, également picturales, puisqu'il dit à un moment que c'est comme si tout Picasso et Kandinsky défilaient sous ses yeux, en mieux même. Il y a aussi l'idée d'une sorte de révélation esthétique, formelle, enfin quelque chose qui est...
Formalisé sous forme d'art, oui. Il revient très souvent d'ailleurs sur cette notion de rôle de l'art. Oui. Mais il parle aussi... d'activité phosphénique. Donc lui-même échafaude d'autres hypothèses pour expliquer ce phénomène.
Oui, parce qu'on peut penser aux visions de Michaud, mais Michaud, ce sont des visions générées par la prise de substances hallucinogènes. Donc il y a chez Michaud, ou chez Junger, ou chez d'autres, même depuis Baudelaire et de Kinsey, tout un processus donc, d'aller chercher les informations, mais avec l'aide d'autres choses. Là, Dick, effectivement, c'est quelqu'un qui avait recours aux drogues et aux psychotropes, mais là, en l'occurrence...
Très peu.
Ouais. Mais là, en l'occurrence, il a eu recours à rien du tout. C'est une sorte de révélation spontanée.
Oui, c'est son propre cerveau. Sa drogue, c'est son propre cerveau, en fait.
C'est lui.
Il la sécrète lui-même. Je pense que ces visions survenaient surtout dans ses rêves. Les visions, au sens où vous l'entendez, très figuratives, c'est principalement dans ses rêves. Et il les analyse à longueur de page. Et il en tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de conclusions.
En mars, j'ai brusquement vu au cœur des choses. J'ai vu à l'intérieur de la réalité. Je l'ai vue telle qu'elle est vraiment. Et j'ai vu les immortels approcher. J'ai vu la prison de fer dans laquelle nous vivons. J'ai d'abord été en contact avec eux, puis j'ai eu toute une série de visions de ce que le monde, la vie, seront quand ils joindront les deux moitiés. L'univers A et l'univers B. Notre monde forme une de ces deux parties. Et ils apportent l'autre avec eux. Ce qu'ils feront du monde ou macrocosme sera analogue à ce qu'ils ont fait de moi et d'autres individus isolés ou microcosmes. En un éclair, ils embrassent tout. Font tout fusionner avant d'empreindre un eidos absolument nouveau. Tout ça sans avertissement. J'ai vécu à l'échelle micro le voyage tout entier que le monde et nous-mêmes allons faire. Des mois de carence, de privation, puis une sensation croissante de frayeur et d'impuissance, ensuite le renoncement à tout, sachant que ce tout, nous l'avons perdu à jamais. Et enfin, l'apparition des éblouissantes formes chromatiques, du déficit, de l'absence d'espoir, de la peur et de l'abandon total, naîtront le renouvellement total, le rétablissement, la renaissance, la vie prendra un nouveau départ, sans avertissement.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Alors un extrait donc de l'exégèse de Philippe Cadic dans la traduction de notre invitée Hélène Collomb, un livre qui vient de paraître, événement considérable, donc dans l'édition française, dans la collection aux éditions Nouveau Millénaire. Alors, cette expérience, on vient d'en parler, cette espèce d'extraordinaire fructuosité, on peut dire à la fois intellectuelle, esthétique, spirituelle, qui est donnée à Philippe Cadic. Maintenant, parlons un petit peu justement du texte, puisque tout cela génère un texte nocturne, vous dites. Ça veut dire que la rédaction est essentiellement de nuit, dans la solitude, ou est-ce que les choses se partagent entre sa carrière d'écrivain, je dirais, plus traditionnelle, et celle-ci ?
Nocturne et solitaire, c'est une bonne définition de ce texte. La journée, était consacrée à l'écriture de ses romans, ses nouvelles, ou son abondante correspondance, et puis sa vie privée tumultueuse. Mais la nuit était réservée aux explorations philosophiques, théologiques, mystiques, selon le terme qu'on préfère leur appliquer.
Donc il était dans la solitude de son bureau, coupé un petit peu de la rumeur, et il notait, parce qu'on voit qu'il y a aussi bien des notes que des lettres, donc il avait besoin d'un transmetteur, enfin disons d'une personne à qui transmettre ce message pour que le message se clarifie. Parce qu'effectivement, beaucoup de convertis ont attendu souvent des dizaines d'années pour traduire de manière très lapidaire ce qui leur est arrivé. Souvent c'est une dizaine de lignes, une page et demie, pas plus. Ça s'appelle les célèbres récits de conversion. Là, c'est un véritable journal qui se met en, c'est une véritable chantier d'écriture qui se met en route et qui rapidement prend la forme du partage. Il écrit à ses amis et il tente d'expliquer en parlant à ses amis.
Au début, cette exploration prend la forme de lettres. Mais relativement vite, au bout de quelques mois, il se met c'est un dialogue avec lui-même, en fait, et avec sa propre œuvre, avec son œuvre aussi. Il y a des correspondances incessantes entre, des va-et-vient incessants entre ses propres productions littéraires antérieures et ce qui est en cours d'élaboration.
Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire et sur lequel il faut insister, c'est qu'il n'y a pas, comme traditionnellement, une rupture. Vous l'avez dit au début, on peut le reprendre, entre ce qu'il a fait avant et puis ce que génère ce moment qui n'intervient pas comme une brisure, mais au contraire comme un accélérateur. Et c'est ça qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'il parle de désinhibiteur. On a l'impression que ce moment a été un passage à la vitesse largement supérieure, un accélérateur de particules intellectuelles et spirituelles, et non pas une sorte de désaveu.
Une anamnèse, c'est le terme qu'il emploie lui-même, un signe, ce fameux signe révélateur du poisson, qui était le symbole que utilisaient les premiers chrétiens pour se reconnaître entre eux. C'est ce signe du poisson qui a tout déclenché chez lui, oui, qui a déclenché une véritable logorée, en fait. Moi, je préférerais parler de graphomanie, parce que je pense qu'il y a une dimension, non pas pathologique, mais une dimension quand même extraordinaire, anormale, dans cette production.
Alors, question, on connaît dans l'histoire de la mystique des graphomanes. Je prends un exemple, Madame Guyon, mystique quiétiste, France XVIIe siècle, était prise de transe mystique et elle écrivait pendant ses transes, au point même que son bras manquait d'exploser. Enfin, le bras finissait par ne plus suffire dans l'espèce de travail. Alors là, est-ce que il écrivait pendant les phénomènes de transe ou est-ce qu'il écrivait après? C'est une manière de récapituler ou comme un sismographe, de suivre sur la feuille.
Je pense qu'on ne le saura jamais, ça. Mais quand on travaille de très près sur le texte comme j'ai pu le faire, comme je continue à le faire, on sent quand même une fébrilité, quelque chose de oui, une fièvre d'écriture, mais une fièvre de savoir, une fièvre d'avancer, et peut-être aussi de construire un système à partir de toutes les hypothèses avancées les unes après les autres, une fièvre, un désir ardent en fait de construire une théologie. Je pense un système.
Un système, à la mode thomiste, une sorte de somme théologique, oui, ou athéologique.
Oui, tout à fait. Peut-être même un désir d'autodidacte, d'être reconnu comme un théologien de son temps. Et en fait, c'est ce qu'il est. Mmh. Quand on a lu l'exégèse, on se rend compte que c'est un théologien du XXe siècle.
Alors justement, avant de passer à cet aspect exégèse, moi j'aimerais qu'on parle encore de l'aspect matériel, puisque c'est quand même un livre qu'il a fallu éditer, dont la maquette est extrêmement soignée. C'est un très beau livre, on a l'impression de lire la Bible au cerf, enfin, c'est vraiment un très très beau livre, papier ivoire, très beau caractère, avec des notes en bas de page, qui sont à la fois les notes de l'éditrice, de l'éditeur américain, des notes de Dick lui-même, des petits dessins qui sont produits, donc Hélène Colon sait de quoi elle parle, puisqu'elle a porté véritablement ce texte. Donc, Dick meurt en 82, et ses héritiers, ses amis, enfin, toute sa communauté, trouvent dans le garage, à Sonoma, je crois, 8000 feuilles, comme ça. Et qu'est-ce qu'on en a fait, brusquement, de tout cela? Est-ce qu'on a...
Alors, il y avait un exécuteur testamentaire pour la partie littéraire du testament dickien, qui s'appelait Paul Williams, qui est décédé maintenant, qui a entrepris de mettre de l'ordre dans cet énorme corpus qui était tout en désordre.
Qui était totalement désordonné.
Voilà, et il a constitué des classeurs avec ce qu'il estimait être des ensembles cohérents, chronologiquement parlant. Il subsiste un doute quand même sur la chronologie.
Donc il y a la forme de l'écriture, il y a la nature du support. On peut trouver des continuités, mais ce n'est pas évident.
Certains fragments sont datés, d'autres sont datables par rapport à ce qu'on sait de sa vie à ce moment-là.
Et donc après, de ces 8000 feuillets, on a extrait une anthologie avec des critères qui sont subjectifs, enfin, qui sont ceux des anthologistes.
Deux grands dickiens devant l'éternel que sont Pamela Jackson et Jonathan Lissem se sont attelés à cette tâche. Ils ont pensé qu'il était nécessaire, voire indispensable, de donner à lire cette somme aux admirateurs de Philip K. Dick, mais peut-être aussi aux lecteurs qui peuvent être intéressés par l'aspect recherche philosophique
et spirituelle et mystique.
Spirituel et mystique.
Et donc un livre est paru aux États-Unis, et quel a été l'accueil? Parce que j'imagine que le lecteur traditionnel de science-fiction a dû être un peu interloqué. On ne sait pas quelle a été la réception, parce que quand on est habitué à lire de la science-fiction sous forme romanesque, sous forme de nouvelles, c'est un type de lecteur, c'est un type de... Il y a une forme de sensibilité. Mais alors là, on est confronté aux pensées de Pascal. Je veux dire, c'est comme si on passait d'un roman picaresque aux pensées de Pascal. Là, il y a véritablement à la fois une continuité, une explosion. Donc, on n'est plus vraiment dans le domaine science-fictif strict, on est dans autre chose.
Oui, je pense que aux États-Unis, le livre a été reçu dans un circuit universitaire où... comme avait pu l'être l'édition de la correspondance de Philip K. Dick avant ce livre-ci. Et peut-être aussi il y a eu plusieurs biographies de Philip K. Dick qui adoptent plusieurs angles différents. Je pense que tout ça, ça tournait dans un certain milieu. Mmh. Peut-être en France, peut-être que le cercle sera un petit peu plus large, je pense.
Though some withered and some died, others lived on through storm and time. And the 12 became hundreds, and the 12 became thousands, embracing the earth with their songs of peace.
They sang in different languages, but with the same heart and voice. And others still shut the door and complain from the noise of love and freedom, the noise of tomorrow's peace.
L'exégèse de Philippe Cadic au cœur de votre mauvais genre de ce soir, alors pas comptiellement, faisons, tentons de faire. Oui. L'exégèse de l'exégèse, ce qui est marquant, c'est que Dick cherche, il cherche effectivement à construire éventuellement un système, une sorte de nouvelle somme théologique à partir de ce qu'il a pu savoir expérimenter. Il cherche à topographier, à expliquer, à se repérer dans tout ça. Mais il n'exclut aucune grille herméneutique.
Bah, en fait, ce qui lui arrive, les événements qui lui arrivent sont à prendre exactement comme les événements qui arrivent les personnages de ses fictions. C'est-à-dire qu'ensuite, ils ont énormément d'hypothèses à tester, à vivre, à traverser. Et en fait, aucune véritablement ne s'exclut. C'est pas la peine d'exclure l'hypothèse neurobiologique. Si on adopte l'hypothèse mystique, c'est pas la peine d'exclure l'hypothèse mystique. Si on adopte l'hypothèse de la folie, on peut être fou et malgré tout Dieu vous parle. On peut avoir des problèmes avec les femmes et pour autant chercher la Sophia, etc., etc. Moi, ça m'a fait penser aussi au carnet d'Artaud. Ce type d'expérience, ça a pensé au cahier d'Ivry. C'est vraiment, on se dit, mais comment un homme peut écrire autant? Comment un homme peut avoir écrit 7000 pages d'exégèse de sa propre, de sa propre vie? C'est-à-dire que ce qui est unique avec ce livre, c'est pour ça que pour moi c'est un des livres les plus importants des 50 dernières années. Je le répète un peu comme une formule, comme un slogan, mais je veux dire, c'est un des 10 livres les plus importants que j'ai lu dans ma vie.
J'insiste.
Pas,
vous avez raison.
Comment dire, pas en tant qu'œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art, c'est au-delà, c'est-à-dire que c'est un texte sacré, mais c'est une exégèse, le terme est mieux, c'est l'exégèse du texte sacré qu'est la vie des hommes d'aujourd'hui. À travers l'exégèse de Philippe Cadic, on peut comprendre pourquoi le monde depuis les années 60 peut véritablement recevoir la révélation gnostique. Le monde qui a été mis en place, Sidic, en fait, peut se reconnaître dans les hypothèses gnostiques, à savoir l'anamnèse pour commencer, donc se souvenir de sa véritable nature, aussi vis-à-vis du monde politique, l'impression de vivre dans une prison.
Il l'appelle Rome,
la prison de fer noir. C'est que ont été testées toutes les formes de libération politique. Elles ont, même si elles n'ont pas été accomplies, elles ont été testées. Et malgré tout, il y a quelque chose qui reste. Malgré tout, il y a quelque chose qui résiste. C'est l'âme adventice. C'est comme une espèce d'ennemi qui semble impossible à virer. Et cet ennemi, Dick l'identifie assez jeune, comme vous avez dit François, avec ce visage dans le ciel, cette espèce de dieu, visage de fer, masque de fer, qui est donc le mauvais démiurge des gnostiques, qu'il a identifié lui-même comme le mauvais démiurge des gnostiques. Il est allé dans une église, il a dit. J'ai vu Dieu, le prêtre lui dit non, c'est le diable, et après il s'en rend compte, il dit non, c'est pas le diable. C'est le mauvais Dieu. Et ce que fait Dick dans l'exégèse, c'est qu'il interprète ses propres romans à l'aune de cette révélation. Il a eu cette révélation, il reprend ses romans, et ses romans sont un texte sacré. Il se demande pourquoi est-ce que ces romans sont un texte sacré.
L'exégèse sacralise, enfin, l'événement sacralise les romans.
Oui. Voilà. Mais elle sacralise ses romans, non pas en tant que lui leur auteur, mais en tant qu'il est le suppôt de l'expérience qu'elle décrive. Il se comprend comme un auteur inspiré, exactement comme un Saint Jean. Voilà. Dick ne se prend pas pour plus que Saint Jean. Il se prend pas pour Dieu. Il se prend pour un auteur inspiré. Ce qu'il a raison. Ouais. C'est-à-dire que ses romans ont inspiré toute la culture pop qui va suivre en termes de science-fiction. Et si on voit le lien très intéressant qu'il y a entre Dick et Lennon, on peut dire que Dick et Lennon, les deux seuls véritablement hommes des années 60 à s'être dit gnostiques, parce qu'ils l'ont dit tous les deux, c'est les seuls à avoir dit vraiment, à s'être reconnus intégralement dans l'identité gnostique en la différenciant de l'identité chrétienne. Dick dit même qu'il est un des avatars de Simon le magicien. Il se pose la question, en tout cas. Il se pose la question des avatars de Simon le magicien. C'est parce qu'ils ont traversé une matière qui au départ était non noble et qu'ils se sont rendus compte que c'était elle qui contenait le véritable trésor. Dick dans l'exégèse. Il y a ce passage où il parle de l'article Stanislas Lem qui parle de Dick trouvant dans les poubelles, dans les poubelles les plus grands trésors. Il dit mais c'est vrai. En fait, si Dieu m'a parlé, c'est probablement parce que je me suis acharné à écrire des récits pulp. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, la révélation doit advenir à tout le monde. Donc doit advenir dans les formes les plus populaires. Et c'est l'idée de la culture pop comme vectrice de l'anamnèse. C'est ça, en fait. Dick lui-même, à un moment, écoute Strawberry Fields Forever des Beatles. Et c'est là où il apprend l'hernie de son fils, qui aurait tué son fils s'il n'avait pas appris, quoi. Le fils allait mourir de cette hernie. Enfin, c'est ce qu'il raconte, en tout cas. Et il l'amène chez le médecin. On lui dit, ah, comment vous avez fait, etc. En fait, il écoutait Strawberry Fields Forever, les paroles « Nothing is real » à ce moment-là étaient porteuses de ça. Ce qui est drôle, c'est que Dick a une anamnèse en écoutant les Beatles, mais il est raconté dans la biographie de Sutton que Lennon a appelé Dick après avoir lu « Le Dieu qui venait du Centaure » en disant « C'est le livre le plus important, tu vois, je veux l'adapter en film, c'est une révélation, etc. » C'est-à-dire qu'ils se sont reconnus. Une fois, ils n'ont pas passé leur temps à se le dire, mais ils se sont reconnus à un moment comme dépositrice de ce même savoir qu'est l'anamnèse. Je ne sais pas si je bouffe déjà tout le temps ou si je
non,
peux
non,
dire
mais
deux mots sur l'hymne de la Terre.
Hélène Colland, donc dans les EGS, ce sont des lettres, ce sont des notes, ce sont des dessins. Mais je reprends ce que disait Paco, mais il ne s'interdit aucune voix. On parle de Platon, on parle des néo-Platons, du néo-platonisme. On parle, à un moment, il dit, mais je suis obligé d'oublier Jésus. Mais non, Jésus revient, si j'ose dire. Calvin est omniprésent, Saint Paul est omniprésent, les gnostiques. Je veux dire, brusquement, c'est comme une sorte d'ouverture totale au sacré total du monde.
Oui, avec une tentative de syncrétisme, voilà. Une tentative pour synthétiser tout ça. Il s'interdit pas non plus d'aller voir du côté des philosophies orientales. Il ne s'interdit rien, d'ailleurs, je crois.
Ben, c'est ça qui est important.
Et plus les hypothèses abondent, plus il est content, et plus il les mélange, et plus il en sort quelque chose de tout à fait unique.
Mais quelle a été la réaction de son entourage quand on a reçu les lettres? Est-ce qu'on sait un petit peu la...
Non, et est-ce qu'il faut le savoir? Est-ce que voilà. C'est pas mieux de l'imaginer, finalement?
Est-ce que, au long de cette, là, c'est un premier tome, est-ce que, au long des deux tomes, on va voir une sorte de courbe, d'arc de développement? Est-ce qu'il va finir par choisir une direction plutôt qu'une autre? Comment les choses vont évoluer?
Non, il ne va pas choisir, il ne choisira jamais, mais il connaît une évolution personnelle, sans doute très liée à cette exploration nocturne. Il va aller vers l'apaisement et se contenter, j'ai envie de dire, d'une explication chrétienne plus classique du sacré, du divin, de la présence du divin dans le monde. Il sera plus calme, on voit ça très bien dans le personnage principal de son dernier roman, Angel Archer, qui s'appelle quand même Ange, Angel, dans la transmigration de Timothy Archer, qui est un personnage apaisé, malgré tout ce qui lui arrive et tout ce qui se produit autour d'elle. C'est un peu son miroir, un peu son double féminin. Et voilà, je crois qu'il finira par se contenter de l'explication chrétienne traditionnelle.
Donc de redevenir...
Après avoir épuisé toutes les autres.
De retrouver une forme d'angélisme, Paco Mtielborn. Au sens fort du mot.
De Angel Archer, il a dit qu'elle était plus intelligente que lui. Il a dit, j'ai créé un personnage qui est plus intelligent que moi.
Et je crois que c'est ça la clé. Qu'il avait pleuré quand il avait terminé le roman, tellement il était triste de la quitter.
Ouais. Et c'est là, en fait, le truc important, c'est qu'il a fait créer des personnes... En fait, c'est qu'il s'est rendu compte... En se rendant compte que son œuvre portait plus de connaissances que lui-même... et en créant des personnages, en créant un personnage qui avait plus de vie que lui-même, qui était plus vivant, plus intelligent, qui était capable de comprendre plus de choses que lui, c'est là où on rejoint véritablement l'idée gnostique qui est le démiurge créateur est plus bête que sa créature, est moins divine que sa créature. La créature est plus divine que le créateur. C'est ça le renversement de perspective qui peut rendre commun l'hypothèse gnostique et Dick. L'autre élément, à mon avis, qui est très important, c'est le moment où il écrit une lettre à Claudia Bush, où il parle de l'hymne de la perle. L'hymne de la perle, c'est un texte qui a cette caractéristique, c'est un poème. Ce poème raconte l'histoire d'un jeune prince partant à la recherche d'une perle cachée dans un lac protégé par un dragon. Et au moment où il part de son royaume, il perd la mémoire de son identité et il devient un clochard. Et il erre dans un monde ténébreux en clochard jusqu'au moment où un aigle jette du ciel une lettre, qui est une lettre de ses parents. Bon, c'est... Bon, tout de suite, ça te fait un peu comique. Mais quoi, donc grosso modo, déjà, vos parents vous cassaient les pieds quand vous étiez jeune, à l'époque des mannequins ou des...
Mais c'est le roi et la reine, quand même.
Oui, 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 bien sûr. Et qu'est-ce que tu fous? Ta mère t'attend, téléphone. On s'inquiète. Bon, bref. Et là, il se souvient de sa véritable identité. Ce récit, en fait, a cette particularité, qui est donc le récit de l'anamnèse, d'avoir été retrouvé dans des textes d'origine extrêmement différente. C'est comme un récit clé, comme les récits de folklore qu'émet tant Claude Gagnebé et qu'on retrouvait à tous les points du monde. C'est un récit clé, c'est le récit clé de se souvenir de sa véritable nature. Dick, dans la lettre à Claudia Bush, dit « Peut-être que l'histoire de ma vie, en fait, était déjà inscrite dans l'hymne de la perle. » L'hymne de la perle, donc, on l'attribue aux manichéens, mais on le retrouve aussi dans des textes chrétiens, dans les Actes de Thomas, qui est un texte chrétien...
Hors du canon.
Apocryphe. On le retrouve aussi réécrit par Sora Vardi, les Shrakioun, au XIIe siècle, sous le nom de Récit de l'exil occidental. Et en fait, on retrouve à peu près à chaque fois qu'on a cette idée, en fait, ce monde n'est pas mon monde, ce monde est un faux monde. C'est pourquoi Dick est la passerelle avec la question de la science-fiction, la question des mondes virtuels. C'est-à-dire que, grosso modo, il réussit à créer l'embranchement qui permet de lire la raison pour laquelle les textes gnostiques redeviennent très très actuels à partir du moment où les hommes devenus démiurges créaient des réalités virtuelles. Et toute la science-fiction post-dickienne, depuis Le Prisonnier jusqu'à Person of Interest, Mr. Robot et toutes ces séries-là, en passant par Matrix, Existence, Truman Show, etc., et toujours on dit l'influence c'est Philip K. Dick, mais c'est juste, c'est-à-dire que l'apparition de l'ordinateur quasiment a créé cette vision chez l'homme. Peut-être alors cette histoire de démiurge créant des créatures plus intelligentes que lui est vraie.
Merci Paco. Comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses fort complexes à l'intérieur de l'exégèse. C'est véritablement l'événement de ce mois et même de cette année en matière à la fois de littéraire et spirituel et même philosophique. Donc l'exégèse de Philip K. Dick au nouveau millénaire, premier tome paru dans la traduction et l'édition d'Hélène Colomb. Voilà, Antoine Guillot, je ne vais pas vous demander si Dieu vous a déjà parlé, si vous avez été l'objet d'anamnèse.
Non, mais Philip K. Dick m'a parlé par la voix de Robert Crumb, puisque rappelons que Robert Crumb a raconté cette histoire de manière beaucoup plus condensée. Ça dure 8 pages seulement, mais ça s'appelle L'expérience mystique de Philip K. Dick. Et on peut le trouver dans le même volume, je crois, qui contient ses adaptations de Kafka. Je vous le recommande chaudement.
Alors, à l'affiche de Mauvais Genre ce soir pour votre chronique BD, Romance et Maccabée, j'aime beaucoup, Infinity 8, Lewis Trondheim, Dominique Bertheim.
Voilà, alors Infinity 8, c'est un des événements bande dessinée de cette fin d'année et qui va occuper aussi la rentrée. C'est un peu la rencontre de Lou Bapo et de la bande dessinée industrielle. C'est une série, comme on dit, d'une série télévisée. Et donc dans une série télévisée, il y a des showrunners, ceux qui s'occupent de l'arc dramatique, de la continuité, de la cohérence de l'ensemble. C'est Lewis Trondheim pour le scénario et Olivier Vatine pour l'aspect graphique.
musique. Ça va donc se décliner en 8 albums qui sont chacun confiés à un scénariste et à un dessinateur. Dans les scénaristes, il n'y a pas n'importe qui, puisqu'il y a Zep pour le premier, il va y avoir Fabien Velman que nous avions reçu à Mauvais Genre, mais aussi Emmanuel Guibert ou Chris. Et côté dessin, vous aurez aussi bien Dominique Bertaille qui inaugure la série, que Kilofer qui va la clore. Donc ce sont des rencontres d'univers graphique et narratif très différents qui partent donc dans une histoire de science-fiction tendance space opéra. On est dans du Flash Gordon un peu hardcore, avec une grosse référence à Wallace Wood pour l'aspect graphique, c'est-à-dire que les héroïnes de ces 8 histoires, il y aura 8 héroïnes, sont de splendides jeunes femmes en combinaison moulante et globe de verre sur la tête pour sortir dans l'espace. C'est bien pratique. Alors le principe de cette série, c'est qu'on est dans une sorte d'énorme paquebot spatial qui assure la liaison entre la Voie lactée et Andromède, vaisseau qui contient, alors je vous cite la première page du livre, 880 000 passagers comprenant 257 races, races extraterrestres, il faut l'entendre, et 1583 humains, dont la moitié d'hommes, et qui donc se rencontre sur son trajet une immense nébuleuse d'artefacts qui a la taille d'un système solaire et qui est en fait une immense nécropole, c'est-à-dire que les nécropoles de l'univers entier sont rassemblées ici, ça leur bloque la route, il faut aller explorer ce qui se passe, donc on envoie cette jeune agente, mais il faut savoir que le capitaine de ce vaisseau est d'une race particulière, une espèce de monstre aquatique qui a la faculté particulière d'explorer une trame temporelle durant 8 heures, au terme de laquelle il peut soit décider de continuer si tout va bien, ou effectuer un reboot, c'est-à-dire qu'on repart au début et nous voici dans la boucle temporelle que je vous annonçais tout à l'heure, sachant que lui seul garde la mémoire de ce qui s'est passé, et là on rentre dans des perspectives très dickiennes, puisqu'il peut décider que ceux qui ont mal agi pendant la première boucle temporelle, une fois qu'on remet tout à zéro, on les arrête, on les met en prison de façon préventive, histoire de pouvoir continuer l'histoire autrement. Donc à partir de ça, on fait une exploration assez drôle et assez étrange de l'univers de la science-fiction pulp, puisqu'on est donc dans cette nécropole. Qui dit nécropole, forcément, dit nécrophage. Ça attire toute la population nécrophage du bateau, du bateau vaisseau, qui décide de s'enfuir pour aller dévorer tous ces monstres de l'espace dont ils vont acquérir la personnalité. Alors si vous allez dévorer un roi guerrier gigantesque qui semble tout droit sorti d'une illustration de Druyer, vous allez avoir envie d'ossir le bateau entier. Si par contre vous dévorez un sage Bouddha qui a réfléchi sur l'amour pendant des siècles, vous tombez immédiatement amoureux de manière très calme de la première personne venue. Voilà. Alors tout ça s'enchaîne de façon très rocambolesque et à la fois graphiquement très excitante. Enfin, il y a quelque chose qui est à la fois d'assumer la dimension pulp populaire de cet exercice et d'en faire une vraie réflexion sur le genre. Voilà, c'est assez formidable. Alors ça sort, on vous en parle maintenant parce que les albums vont sortir en janvier, les deux premiers, ça va nous conduire jusqu'à mars 2018, mais dès maintenant, vous pouvez découvrir ça sous la forme très pulp de comics. Chaque album est décliné en 3 comics. Donc les premiers sont parus avec des sous-titres merveilleux, le space opéra pulp et pop avec des bagarres, le deuxième des nécrophages comme s'il en pleuvait, le troisième suspense en apesanteur, mais vous aurez aussi bientôt reboot et si on réveillait Hitler avec la grande question du dernier que j'ai reçu, le numéro 5, Hitler va-t-il passer du côté obscur?
Voilà, fini 8, 7 aux éditions Rutsaus, deuxième préconisation.
Alors là, de manière beaucoup plus mélancolique, mais ça pourrait aussi beaucoup parler à Philippe K. Dick, ça s'appelle Police Lunaire de Tom Gold, c'est paru chez 2024, c'est un auteur écossais et qui vit à Londres, Tom Gold, alors qui raconte de manière très minimaliste le départ de l'homme de la Lune, c'est-à-dire qu'on a construit des stations spatiales, mais finalement tout le monde s'y ennuie, donc tout le monde décide de revenir sur Terre, ne reste qu'un policier, un policier qui, comme tous les policiers, boit du café et mange des donuts, sauf que comme tout le monde s'en va, il n'y a plus que des robots pour lui donner son donuts quotidien et son café, et forcément, comme plus personne n'est là, il a un taux d'élucidation des affaires absolument magnifique, 100% d'affaires résolues, puisqu'il n'y a plus aucun crime, et donc il les fait. Voilà, tout ça est fait avec un dessin au trait, un sens de la hachure qui est tout à fait merveilleux, en bichromie bleue et noire, et c'est vraiment très très drôle et mélancolique à la fois. Donc je suis sûr que Philippe K. Dick aurait adoré. Ça s'appelle Police Lunaire de Tom Gold et c'est aux éditions 2024.
Merci Antoine. Wait. peu de popcorn jazz choisi par Laurent Polleret. On termine cette émission, hélas, par un hommage à Jacques Noël, à Christophe Beer, dont j'évoquais déjà il y a une semaine.
Oui, oui, c'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Je suis passé tout à l'heure rue Gilles-Cœur. J'ai vu la devanture de sa boutique, de sa librairie, Un regard moderne, qui avait été créée en 1991. Elle était décorée de fleurs, il y avait un pochoir « Adieu, Monsieur Noël », des témoignages d'artistes, parce que c'était effectivement un libraire tout à fait incroyable qui avait accompagné des jeunes graphistes qui maintenant sont très connus. Il avait cette capacité à voir... Donc, avoir des yeux fertiles, qui est aussi le nom de la précédente librairie où il travaillait, son regard se portait vers toutes les créations, donc on dit underground, contre-culturelles. Donc, il y avait Stéphane Blanquet, on y trouvait les premières bandes dessinées de Pierre Lapolis, il y avait les photographies de Gilles Berquet, dont l'éditeur était Jean-Pierre Faure. Le patron de la librairie Un regard moderne, que Jacques considérait comme le dernier mécène. C'est par Jean-Pierre Faure que cette librairie existait. Mais en fait, dire underground ou contre-culture, ce sont des choses que lui n'aurait pas appréciées parce qu'il était contre les étiquettes. Et sa boutique reflétait un éclectisme plutôt joyeux, vraiment épatant, qui allait des situationnistes au pulp. On parlait de pulp. Tous ces comics, on les aurait trouvés chez lui. Mais il y avait aussi des Elvis France, ce qu'il faisait aussi de l'ancien. C'est un libraire qui proposait des choses à tirage très, très limité, sans code barre, sans ISBN. Et puis de l'ancien, il y avait donc des choses tout à fait étonnantes. Alors... oui, ça ne m'étonne pas qu'il ait refusé de s'exprimer à la radio. C'était pas non plus un homme de communication. En fait, ce qui l'intéressait, c'était vraiment son travail de libraire, un contact très privilégié avec la clientèle, au point où, dans les rares interviews qu'il a pu donner ces dernières années, il parlait d'un rapport prostitutionnel. C'est ça qui l'intéressait. C'est-à-dire que il avait dit un jour à Art Spiegelman, qui adorait cette boutique, que s'il avait été une femme, il aurait été une prostituée. Et à défaut, il était devenu libraire, parce que pour lui, le livre était une façon de donner du plaisir à ses clients. Et c'est ça qui le fascinait le plus. Et le livre, qui est une sorte d'objet multiple, avait cette chose miraculeuse de devenir unique dans les mains de chacun de ses clients. Voilà, donc c'était un homme vraiment très important pour toute une génération de, non seulement de Français, mais donc, je vous parlais d'Art Spiegelman, Charles Burns aussi était un de ses clients, il y avait les Japonais qui allaient chez lui, c'était un lieu incontournable du Paris, du Quartier Latin.
Merci Christophe Beer. Nous n'oublierons pas donc Jacques Noël et son regard moderne. Je rappelle les sujets traités ce soir à Mauvais Genre. L'exégèse de Philippe Cadic, traduit par Hélène Collomb, notre invitée, volume 1, aux éditions Nouveau Millénaire. Précipitez-vous. Tous les fascicules de Infinity 8 aux éditions Rue de Sèvres. Et puis Police Lunaire de Tom Gold aux éditions 2024. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Julien Doumain, Claire-Martin Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Antoine Guillot, Paco Mtielman, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci Hélène Collomb d'avoir été notre invitée. On se retrouve samedi prochain, bien évidemment, pour célébrer le centenaire de l'immense écrivain fantastique américaine Shirley Jackson. Je serai en compagnie de Hélène Frappin.